D'abord, je voudrais vous remercier toutes et toutes qui sont là dans la salle et puis surtout remercier nos invités que je vais vous présenter. L'idée de cette table ronde, c'était Joséphine Baker, je m'habitue, militante, transmettre les combats. Alors je pense qu'on a depuis hier beaucoup parlé de ce personnage à facettes multiples qui était Joséphine Baker, et pour ceux qui étaient là, on était peu nombreux puisque c'était la journée réservée aux élèves, on a vu un bouquet de travaux faits tout au long de l'année, de classes de CM2 jusqu'à des classes de lycée professionnel, qui nous a montré combien, quand un enseignant, une équipe s'implique sur un projet autour de cette grande dame, on peut avoir à la fois des résultats de réflexion sur des champs différents du monde de l'éducation et de l'autre côté, le choix de supports très diversifiés. Alors, j'ai choisi pour faire réagir mes invités 4 affiches qui ont été faites par le lycée professionnel un des lycées professionnels de Précordie. Le lycée professionnel de Précordie. Les élèves de CAP Vente et ont fait des affiches et ont produit une fiction radiophonique. Et ça nous paraissait intéressant comment, dans un milieu qui n'est pas favorisé culturellement que sont nos lycées professionnels, on arrivait à amener les élèves vers cette réflexion autour des valeurs et des combats de Joséphine Baker. Alors, notre problématique, elle est la suivante. Il y a les combats, on les connaît. Mais ces combats, j'allais dire, ils ne peuvent être inscrits que dans l'histoire, mais ils peuvent devenir les points de départ, les ferments d'un travail de transmission. Donc on va travailler un peu en deux temps avec mes invités. Alors je présente, je ne vous donne pas tout ce qu'ils ont écrit les uns les autres, c'est très bien fait dans le petit catalogue de l'équipe du festival, ça nous permettra de gagner du temps pour que la salle, on puisse échanger avec la salle après. Alors Laurent Wirth, ancien enseignant d'histoire géo, qui est devenu inspecteur général d'histoire géo, donc il pourra nous, et on dit maintenant d'éducation morale et civique, et il pourra nous apporter ce regard du côté du monde de l'éducation. Je ne cache pas que c'est un monde que je connais bien en tant qu'ancien principal de collège, et puis 2 autres invités. Alors, il aura aussi la casquette de l'historien, Laurent, hein, parce qu'il devait avoir Annette Vivorca qui devait être là, elle n'est pas là, donc il va porter les 2 casquettes, éducation et historien. Laurent Kupferman, alors, essayiste, documentariste, mais surtout, il nous racontera tout à l'heure un peu l'histoire qui l'a conduit à travers un documentaire qu'il a écrit, cette rencontre avec des centaines de lycéens de Dordogne, et il nous parlera peut-être plutôt de l'angle, lui il est là un peu l'angle de la culture, l'angle de la transmission du côté d'un public plus large, d'un public ouvert, d'un public non ciblé. Et puis je l'en remercie, notre ancien président de la LICRA, Alain Jakubowicz, qui, ce cher Alain, je dirais, il a mené en permanence dans sa vie plusieurs combats, dont le combat, j'allais dire, qui est celui de son métier, d'avocat, de défendre l'homme ou la femme, de défendre l'humain. Il en parle souvent très bien quand il est interrogé sur des chaînes de télévision, cette dimension de l'humain. Et chez Joséphine Baker, il y a bien cette dimension de l'humain qui est présente. Et puis, j'allais dire, engagé à la fois dans sa jeunesse au moment du procès Barbie et dans sa responsabilité en tant que président de la LICRA. Donc voilà un petit peu, il nous apportera l'œil du militant, l'homme de la société civile qui, j'allais dire, doit toujours conjuguer l'humain et le droit. Alors, on va faire très simple. La première question, ma première interrogation, c'est parmi ces combats de Joséphine Baker, il y a quatre affichettes qui ont été faites. Vous en choisirez une chaque fois que vous parlerez. Et puis, je vais vous demander aux yeux de chacun, on va faire ça autour de 5 minutes pour chacun, quel est le combat ou les combats qui vous semblent primordial à transmettre. Laurent.
Moi, j'aurais tendance à les prendre toutes, hein, parce que la résistante, la militante pour les droits civiques, pour moi, c'est... Et puis, la tribu arc-en-ciel, pour moi, ce sont des... Oui, alors, ça, c'est Joséphine Baker, l'artiste icône musicale, mais bon, voilà, oui. Toutes ces valeurs sont des valeurs que l'école doit s'attacher à transmettre, je n'en refuserai aucune, parce que pour moi, cette femme incarne et notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et je rajouterai à liberté ce qui est repris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, la résistance à l'oppression. Donc, à cette question, moi, je réponds tout simplement, chez Joséphine Baker, je prends tout, et je pense que l'école doit tout transmettre. Alors là, on pourra peut-être en reparler. Il y a un grand procès qui est fait à l'école aujourd'hui, qui est de ne plus transmettre des valeurs. Et je pense que c'est un procès qui est injuste. Je pourrais m'en justifier parce que il y a dans notre éducation nationale des hommes comme toi et beaucoup d'autres hommes et d'enseignants qui se battent justement pour la transmission de ces valeurs tous les jours. Il y a des disciplines, dont la mienne, l'histoire, géographie, ce qu'on appelait autrefois éducation civique, qu'on appelle aujourd'hui enseignement moral et civique, qui sont là aussi pour transmettre ces valeurs. Mais pas seulement. L'éducation physique et sportive transmet aussi des valeurs de solidarité, le sens de l'effort, le fair play, etc., qui sont des valeurs tout à fait importantes, hein, pour vivre en société. Alors, ce procès qui est fait l'éducation nationale, c'est souvent un procès qui méconnaît un certain nombre de choses. D'abord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la société n'est pas malade de son école, mais c'est l'école qui est malade de sa société. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des problèmes sociaux qui sont entrés à l'école et qui perturbe finalement la transmission de ces valeurs. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il faut se méfier de la nostalgie, qui est souvent une mauvaise conseillère. Il faut considérer des évolutions fondamentales. D'abord, la massification de l'enseignement. Depuis les années 60, l'enseignement secondaire, le collège et le lycée, tous les élèves sont accueillis au collège, ont été massifiés. Et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes, y compris dans les disciplines dont je parlais. Par exemple, au collège, dans la mesure où il y a des élèves qui ne poursuivront pas après le collège, il faut parcourir tout le spectre chronologique. Moi, quand j'étais au lycée, c'était facile. De la sixième à la terminale, on avait donc tout le loisir de partir de l'Antiquité pour aller jusqu'à nos jours. Maintenant, il faut faire le cycle complet au primaire, on refait le cycle complet jusqu'à nos jours au collège et on recommence en terminale, en cycle terminal, de la seconde à la terminale. Donc il faut prendre tout ça en compte pour comprendre la difficulté à laquelle les enseignants sont confrontés, plus des difficultés qu'on pourra peut-être évoquer, je ne veux pas être trop long, qui sont liées justement à l'intrusion de problèmes qui se posent dans la société à l'intérieur de l'enceinte de l'école.
Cher Laurent, toi, du côté de celui qui a écrit un film et qu'il l'a porté devant, dans des discussions avec de nombreux lycéens. Parmi les combats de Joséphine, qu'est-ce qui te semble primordial ?
Moi, je ferais comme Laurent. C'est difficile de dissocier. C'est un tout, Joséphine. Moi, je dis Becker. Hein, bon, voilà. Donc, bon. C'est un tout. C'est une femme qui est profondément marquée, je pense, par son expérience de vie aux États-Unis d'Amérique, alors qu'elle est assez brève, mais c'est un moment important de sa vie. C'est dans sa jeunesse le moment où elle se façonne. Il faut réexpliquer qu'elle est née à Saint-Louis, dans le Missouri, dans le ghetto noir de Saint-Louis, qu'elle est elle-même métisse. Donc c'est encore plus difficile de trouver sa place dans un ghetto lorsque vous êtes trop noir pour les blancs et trop blanche pour les noirs, qu'elle est dans une famille plus que modeste, qui la force à devoir travailler dès l'âge de 7 ans, en plus de sa scolarité, pour pouvoir nourrir les membres de sa famille. Elle a 7 ans, 8 ans. Elle est placée dans des familles où elle... lorsqu'elle a 8 ans, elle casse une assiette, ce qui peut quand même arriver, eh bien, sa patronne lui met les mains dans l'eau bouillante. Voilà ce que c'est la vie de Joséphine Baker. Elle est aussi témoin direct, pas victime, mais témoin direct des émeutes de Saint-Louis. Elle voit des hommes et des femmes noires se faire tuer comme des chiens. Donc elle comprend bien, c'est pas une intellectuelle, mais elle comprend bien qu'elle ne, dans un pays qui pratique la ségrégation raciale, c'est-à-dire la partition avec des autobus pour les blancs, des autobus pour les noirs, des écoles pour les blancs, des écoles pour les noirs, des restaurants pour les blancs, des restaurants pour les noirs, elle ne peut pas se bâtir un destin. Elle en a je ne sais pas si elle en a la conscience, mais elle en a l'expérience. Et quand très jeune, elle arrive en France à l'âge de 19 ans, elle arrive dans un pays où ce n'est pas à la perfection, la France, mais au moins, elle n'est plus regardée comme une couleur, mais comme une personne. C'est considérable. C'est ça aussi qu'il faut revendiquer dans l'héritage républicain français. Et c'est ça, probablement, qui fera le début de cette histoire d'amour entre Joséphine Baker et la France. C'est cet homme blanc qui lui tend la main lorsqu'elle descend du train en arrivant du paquebot, qui lui sourit. Quand j'ai travaillé à la fois sur la panthéonisation et à la fois sur le documentaire qui a été fait dans le cadre de la panthéonisation, j'ai retrouvé des archives de ses courriers où elle écrit, c'est extraordinaire, tu te rends compte, ici, ma femme de chambre, elle est blanche. Voilà, ça l'a, pour elle, c'est une espèce de monde à l'envers. Et elle n'est pas la seule. Les soldats afro-américains qui sont venus lors du premier conflit mondial, ils témoignent tous du fait qu'ils arrivent à respirer en France. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Le racisme, c'est consubstantiel à la nature humaine, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais néanmoins, ça n'est pas un racisme institutionnalisé comme ça pouvait l'être aux États-Unis d'Amérique, avec les résurgences qui existent toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, ces combats... donc la femme libre, hein, celle qui était émancipée, qui décide de quitter son pays à l'âge de 19 ans pour aller dans un pays dont elle ne parle pas la langue, où elle n'a aucune famille, mais elle ne quitte pas. Elle réfléchit, bien entendu, mais elle n'est pas malheureuse, parce qu'elle est plutôt malheureuse aux États-Unis. D'ailleurs, dans une interview en 1973 qu'elle donne à la télévision canadienne, la journaliste lui demande, mais Madame Baker, parce qu'elle dit bien Baker, est-ce que vous retourneriez vivre aux États-Unis ? Et Joséphine, elle dit non, c'est pas mon pays. Mon pays, c'est la France. Elle dit je respecte les États-Unis, mais j'ai choisi la France.
Alors, à ce propos, avant que Alain apporte son témoignage, quel combat pour lui, à ses yeux de militant, à ses yeux d'avocat, est primordial, j'aimerais dire qu'il faut aller sur le site de l'INA, où il y a l'intégralité, alors je ne sais pas si c'est de cette interview dont tu parles, sur une interview faite au Québec, qui est, alors ça dure 50 minutes, un petit moment de bonheur, je vous le conseille.
Merci, bon, comme mes camarades, on ne va pas saucissonner Joséphine Baker. Joséphine Baker, c'est un tout, c'est d'abord une femme. J'ai dit hier, et d'ailleurs j'assume totalement, que je ne pense pas qu'elle se présentait elle-même comme féministe. Je pense même que, poussant peut-être la réflexion un peu loin, elle considérait même qu'il y a une sorte de ségrégation par rapport à sa vision de l'homme, de l'être humain, en voulant la marquer, encore une fois, par son sexe. Je pense vraiment que Joséphine Baker, elle incarne ses combats pour l'humanité et l'humain, qui est au centre de son combat. Alors, moi, je vais aborder le problème un tout petit peu différemment par rapport à ce que tu nous as présenté, par rapport à ces images. Moi, j'essaye de mettre dans la tête de ces jeunes gens, de ces jeunes lycéens de la Dordogne, j'allais dire, et ce n'est pas du tout péjoratif, de la France profonde, qui entendent parler pour la première fois de Joséphine Baker, parce qu'il faut quand même partir de ce postulat-là. Qui connaît Joséphine Baker aujourd'hui parmi les jeunes gens? Et ça, c'est le travail admirable qui est fait, notamment et essentiellement par la LICRA, par Laurent et par d'autres, d'aller porter, d'une part, la parole et de donner à ces jeunes gens, d'une certaine façon, des raisons d'espérer. Je veux dire, quel est le pays où une gamine née dans le Missouri, que nous rappelait Laurent tout à l'heure, qui a connu le racisme le plus clair, le plus évident, le plus insupportable, qui va finir sa vie et au-delà au Panthéon de la République française. Quel est le pays au monde, avec tout le French bashing que l'on connaît aujourd'hui, qui donne cette possibilité et cet espoir en même temps? Et d'ailleurs, je fais là, par rapport à l'histoire, puisqu'on en a parlé hier, le parallèle avec l'entrée de Manouchian au Panthéon, qui est effectivement aussi un exemple. Pour moi, je l'ai dit, lorsque Manouchian rentre au Panthéon, c'est tous les FTP Moy qui rentrent. C'est-à-dire, tous ces laissés pour compte de la résistance, de ceux dont on n'a pas parlé, ceux dont on n'a pas honoré, ceux qui se sont battus, ces immigrés de toute religion qui, effectivement, rentrent au Panthéon. Et je veux dire que pour ces jeunes gens qui ont fait ces dessins, je veux dire qu'eux, il n'y a pas la résistance d'un côté, il y a simplement une vision et une chance. Et ce que je trouve extraordinaire, mais qui en même temps est très douloureux, c'est que ces jeunes gens qui t'ont rencontré toi, qui ont rencontré notre ami Claude, qui ont rencontré tous ces militants de la LICRA et d'autres, ils ont eu eux-mêmes une chance extraordinaire. Et moi, c'est là que s'arrête, à mon avis, la force du symbole. Parce que le symbole, c'est beau, les déclarations au Panthéon et dans les grandes institutions au moment de la mort de tel ou tel, ces gamins, eux, c'est la vie, c'est pas la mort. Et je pense que, vraiment, il y a là une... en tout cas, ce que ça nous montre, c'est que ça marche. Que ça marche. Et que quand on va rencontrer ces jeunes gens, quand on leur donne cet espoir, non pas en regardant le passé. Moi, je le fais souvent. Tu rappelais tout à l'heure mon rôle dans les procès Barbie, Touvier, Papon. Lorsque je vais rencontrer des étudiants, lorsque je vais rencontrer des jeunes gens, c'est pas pour leur parler du passé. C'est pour leur parler de l'exemple du passé pour l'avenir. Ils doivent pouvoir s'identifier à ça. Moi, je veux dire que ces jeunes gens, lorsqu'ils voient cette femme noire, qui pour beaucoup eux-mêmes sont noirs, qui connaissent des discriminations dans leur vie, pas les mêmes évidemment, il est évident que pour eux, quand on leur parle, c'est l'occasion de leur parler de la marche pour les droits civiques, que très souvent ils ne connaissent pas eux-mêmes, qu'on peut faire le parallèle avec un certain nombre de manifestations importantes qui ont marqué notre République pour la revendication des droits aussi, sans aller dans les excès absurdes auxquels on assiste aujourd'hui, qui considèrent que parce qu'on a frappé un noir, c'est nécessairement du racisme, ou parce qu'on a, un juif, c'est forcément de l'antisémitisme. Tout est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça, d'ailleurs, la difficulté de la tâche à la LICRA. C'est de ne pas s'arrêter à la superficialité des choses. Et on peut faire ce travail avec les jeunes. Et ces images, ben voilà, ceux-là, j'allais dire, d'une certaine façon, ils sont sauvés. Seulement, le problème, c'est une petite cuillère dans l'océan. Voilà. Eh bien, le rôle de l'éducation nationale, c'est de transformer la petite cuillère en je sais pas quoi, mais
en non,
c'est pas, c'est beaucoup plus qu'une louche. C'est beaucoup plus qu'une louche. Mais voilà notre tâche à tous. Pardon, monsieur.
Oui. Alors, on peut applaudir celui sans qui nous ne serions pas là. Allez.
Non, ça va. L'invité surprise. Je voudrais remercier Laurent pour deux choses. C'est grâce à Laurent que Joséphine Baker est rentrée au Panthéon. Il faut pas oublier. Deuxièmement, et comme Laurent est très modeste, et à côté de Laurent, quand j'ai eu cette idée de faire ce festival, notre président de l'éducation nationale de la LICRA est venu voir la directrice de l'éducation nationale à Périgueux pour lui expliquer. Et la directrice, en 10 minutes, elle m'a dit « Mais je pars à 100%. » Maintenant, je voudrais que Laurent explique ce que nous avons fait 6 mois avant, la tournée dans les cinémas avec ce film extraordinaire que Laurent a fait. Donc, Laurent, je voudrais que tu expliques et je vous laisse. Et merci, toi, Laurent.
Merci, Claude.
D'abord, merci, Claude. Je veux préciser que c'est une œuvre collective, hein, la panthéonisation, et que seul, je n'aurais rien pu faire. Et la LICRA a pris sa part, notamment. Donc, sur ceci étant posé, Claude a bien voulu organiser au mois de février une tournée dans les collèges et les lycées de Dordogne, grâce aussi à toi, grâce à tout le monde, quoi.
Grâce à l'éducation
nationale.
Aux enseignants qui ont répondu.
Oui. Ils ont, sans eux, c'était pas possible. Voilà. Donc, et ça s'est extrêmement bien passé. Tout à l'heure, il y avait une dame, je ne sais pas si elle est là. Elle est professeure. Ben voilà. J'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, qu'on lui donne la parole, parce que c'est une professeure. Elle a assisté, mais elle est gênée parce qu'elle a de l'accent. Joséphine aussi, elle avait de l'accent.
Allez, venez madame, pour témoigner.
Donc oui, je suis prof et je suis surtout passionnée de Joséphine Baker depuis toujours. Et moi, je vis en Dordogne. Et ce que j'entends de ce qu'ils ont fait dans les écoles, ça sonne pas bien là ? Ça va ? Ok. Et très sincèrement, j'ai été extrêmement touchée par l'impact de ce qu'ils ont fait dans les écoles avec les profs. Donc bien sûr, les profs étaient vraiment les premières personnes à dire « Moi, ça m'intéresse et ce que je peux emmener ma classe. » Donc, bien sûr, c'est merci aux profs. Merci à Laurent. Merci à tous ceux qui ont organisé, Jérémy et Thomas, pour organiser tout ça dans les écoles. Mais c'est surtout l'impact que ça a eu. Plus de 2000 enfants en Dordogne ont découvert Joséphine Baker grâce à ça. Et moi, en tant que prof, je trouve que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, ça. Merci.
Alors,
merci à vous.
Il faut toujours se méfier des médailles trop belles, des médailles qui brillent trop. Je pense que quand même, à certains moments, Laurent, tu as peut-être senti chez certains élèves des points dans lesquels il fallait... Ça bloquait, enfin, ça, c'était peut-être pas acquis.
Alors,
ton témoignage, là.
Pour être très honnête, c'est arrivé, mais c'est pas beaucoup arrivé. J'embellis pas la réalité. Il y a eu un petit peu à Périgueux une fois des militants qui ont essayé de parler des questions de réunion en non-mixité en me demandant ce que Joséphine en aurait pensé. Moi n'étant pas voyante, je ne sais pas. Tout ce que Joséphine aurait pensé des réunions en non-mixité, tout ce que j'ai fait, c'est que je leur ai rappelé que lorsque, après la marche de Washington, Joséphine Baker descend du promontoire où elle a pris la parole avec Martin Luther King, dans ce discours qui est fondateur, et un journaliste de CBS lui demande « Alors, madame, ça vous fait quoi d'être l'icône du peuple noir ?» Et alors, elle dit « I beg your pardon ?» Et alors, il lui repose la question « Ça vous fait quoi d'être l'icône du peuple noir ?» Et là, elle lui dit « Mais monsieur, il n'y a pas de peuple noir, il n'y a pas de peuple blanc, il y a le genre humain. » Et je crois que c'est ça le message fondamental de Joséphine Baker. Et j'ai raconté cette anecdote devant ces activistes, entre guillemets, même eux ont applaudi. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait parce qu'il y avait un mouvement, mais en tout cas, ils ont applaudi. C'est rappeler des choses de, finalement, d'un certain bon sens. Voilà, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pardon, je vais peut-être un peu sortir du sujet, mais pas tellement en fait. Je suis allé faire une conférence sur la laïcité à Évry-Courcouronnes en semaine. Donc c'était quand même un acte militant. Et j'ai été frappé par le fait qu'il y avait des enseignants qui me demandaient des conseils. Ça aurait pu être autre chose que des enseignants, hein, qui me demandaient des conseils pour expliquer comment expliquer aux élèves que la Terre n'est pas plate. Et je leur ai dit, mais on est en 2023, on est obligé d'expliquer, de trouver des parades pour expliquer que la Terre n'est pas plate. On a quand même de sacrés problèmes devant nous.
Alors, la Terre n'est pas plate. Monsieur oui. l'inspecteur général, qui a aussi la géographie sous sa, son ancienne compétence, voilà. Je pense que tu as certainement des choses à nous dire là autour de ça.
Oui, alors moi je suis content de ces messages quand même très positifs que vous passez.